Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon, je reçois ce matin Jean-Charles Colas, conseiller régional Europe Écologie Les Verts en Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Charles Colas, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement a récemment validé le déclassement des autoroutes A6 à 7 dans Lyon, ou plus précisément entre Pierre-Bénite et Dardilly. C'était un projet que votre parti appelait de ses voeux, à l'instar de la quasi-intégralité des politiques locaux. Pour vous, c'est la décision historique de ce début du siècle ?
Oh, j'irai pas jusque-là, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus impactantes pour l'histoire. Cela dit, c'est effectivement quelque chose que nous réclamons depuis longtemps.
Oui.
Nous avons toujours dit qu'il était possible de sortir cette autoroute du centre de Lyon et de la transformer en boulevard urbain.
Ça arrive trop tard pour vous ?
Non, vous savez, à l'aune de l'histoire, les choses se font malheureusement pas assez vite pour les écologistes que je suis, mais elles se font, c'est le principal, on va bien dans le bon sens. Je me souviens, au moment du débat public sur le tronçon ouest du périphérique, il y a 3-4 ans, on avait défendu cette idée qu'on pouvait déclasser la 6 à 7 et la transformer en boulevard urbain et rendre ce quartier vivable, et au-delà de ce quartier, changer un peu l'image de l'agglomération lyonnaise. On était un peu les seuls, puisque tout le monde disait oui, mais on pourra le faire que quand on aura fait le périphérique. En fait, on se rend compte que non, on n'a pas besoin du périphérique pour déclasser la 6 à 7.
Tout le monde est très excité par cette annonce, mais il y a quand même deux questions essentielles qui se posent. Par où va passer le trafic actuel ? Et puis, où va-t-on trouver l'argent pour réaliser ce boulevard urbain, puisque ça n'a pas été inscrit à la PPI ? Alors, pour cette deuxième question, c'est à la métropole de Lyon de répondre. Mais pour la première, sur le trafic, qu'est-ce que vous préconisez ?
C'est une excellente question, mais en général, quand on a un problème à traiter, il faut bien qu'on connaisse les sources du problème.
Oui.
La majorité du trafic qui passe entre la Mulatière et Dardilly, c'est du trafic qui... plus de 70% va dans le cœur de l'agglomération, c'est-à-dire sur Lyon et Villeurbanne.
C'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent travailler dans Lyon.
De la deuxième, de la troisième couronne,
oui.
Et qui viennent travailler dans le centre de l'agglomération. Alors ensuite, il y a encore une partie très importante qui est du trafic interne à l'agglomération. C'est-à-dire des gens qui vont de l'est à l'ouest ou du nord au sud, voilà, mais qui restent dans l'agglomération.
Mm-hmm.
Le trafic réellement de transit, c'est-à-dire qui fait un axe nord-sud, qui ne fait que traverser la région, représente moins de 10% du trafic qu'il y a sur cet axe-là. Ça veut dire que on n'a pas besoin de construire un grand contournement de Lyon pour enlever la majorité du trafic qui va aller dans Lyon. Les gens qui viennent des Monts d'Or, de la vallée d'Azergues, de l'ouest lyonnais ou même du sud et qui veulent aller à Lyon ou Villeurbanne ou même à Gerland ou même à Vénissieux, ils ne vont pas passer par Satolas. Donc, ce n'est pas le grand contournement la solution. Si on veut diminuer le nombre de voitures qui circulent sur cet axe-là parce qu'on veut en faire un boulevard urbain apaisé, sympathique, partagé avec des bus, des vélos, des piétons, etc., il faut un vrai réseau de transport en commun qui aille à l'extérieur de la première couronne, c'est-à-dire un réseau de RER. Ces gens-là, ils viennent travailler dans le cœur de Lyon, dans le cœur de Villeurbanne, ils ont besoin de transports en commun qui viennent les chercher chez eux.
Ça, c'est pour la vie de tous les jours, mais en période de vacances, cet été, par exemple, vous ne pouvez pas dire que 70% du trafic qui va passer par Fourvière, c'est uniquement des locaux.
Et donc, on a 8 week-ends par an, en juillet, en août, à des moments où on a zéro trafic, entre guillemets, de professionnels locaux, c'est-à-dire les gens qui travaillent et qui se déplacent pour aller à leur travail, qui sont la majorité des usagers de cette route, ne prennent pas cette route les week-ends et encore moins au mois de juillet, au mois d'août.
Ouais.
Donc, on n'a que du trafic de transit. Et ce trafic-là, il peut tout à fait passer sur les autoroutes existantes. Vous savez, on a construit, à mon grand dam d'ailleurs, une bretelle d'autoroute il y a quelques années qui configurait, à mon avis, le début d'un grand contournement est et les gens n'y ont pas pensé. La 432, vous y allez aujourd'hui, il n'y a personne dessus. C'est une autoroute totalement fluide. Moi, il m'arrive de la prendre ponctuellement pour aller à Bourg-en-Bresse. C'est une autoroute qui est vide, donc elle peut largement absorber un trafic de transit pour quelques week-ends par an.
On a vu récemment cet atlas de la France toxique qui a été dévoilé par l'association écologiste Robin des Bois, avec Lyon, qui est la deuxième ville la plus polluée aux particules fines derrière Marseille, devant Paris. Alors avec ce boulevard urbain, en quelques mois, en quelques années, cette pollution, elle serait pas résorbée, mais elle reculerait vraiment, selon vous ?
Ah, bien sûr. Vous savez, en fait, la question de la pollution, elle se limite, on va dire, dans les médias, par des pics.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, on dépasse les normes, et donc, du coup, il y a une alerte, etc. On fait rien de plus. Mais en fait, pour qu'il y ait des pics, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pollution permanente toute l'année, un niveau de base qui fait que quand il y a des conditions météo, c'est la même chose dans la vallée de Chamonix par exemple, eh ben on dépasse le pic. Si on réduit ce niveau de base quotidiennement, l'effet sera immédiat. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre des mois ou des années. Si on enlevait un tiers des véhicules qui aujourd'hui passent sur l'axe A6 à 7, par exemple, on est sûr qu'on baisserait fortement en pollution et qu'on ne dépasserait quasiment plus jamais les pics de pollution.
Et vous avez peur que ces efforts soient vains si l'A45 qui relierait Lyon à Saint-Étienne arrivait aux portes de Lyon? On voit que Gérard Collomb se pose des questions par rapport à ça. Il aimerait bien que le trafic passe par cet endroit-là.
Il y a une évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps dire on veut déclasser la 6 à 7 et la transformer en boulevard urbain et réduire le nombre de véhicules qui passent par cette route,
oui,
et construire la 45 qui va amener plus de véhicules justement sur ce boulevard urbain. Il y a une contradiction majeure. Donc, si on veut déclasser la 6 à 7, il ne faut pas faire la 45. C'est une évidence. On sait que la 45 amènera 30 000 véhicules jour supplémentaires juste sur cet axe à 6 à 7. C'est une incompatibilité. Nous militons contre la 45 depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a d'autres solutions aussi, des vraies solutions, parce qu'en plus, la 45 n'est pas une vraie solution pour la mobilité entre le bassin ligérien et l'agglomération lyonnaise. Il y a des vraies solutions qui existent, qu'on peut développer et qui coûtent en plus beaucoup moins cher.
Vous aviez participé à la fronde avec des élus de tous bords, hein, et notamment le député de droite, Georges Fenech. Laurent Wauquiez était dans votre viseur, hein, puisqu'il voulait subventionner avec la région la construction de cet axe. Depuis, il s'est un peu calmé, il a commandé des études, mais il a toujours inscrit cette subvention de 100 millions d'euros dans le budget. Aujourd'hui, c'est du 50-50.
Vous savez, je crois que Laurent Wauquiez, il a beaucoup de qualités, ce qui fait qu'il est au poste où il est, mais il a un défaut, c'est qu'il est un peu tout feu tout flamme. Et quand on est tout feu tout flamme, il faut se méfier des fausses bonnes idées. Celles qu'on nous répète, que des gens nous répètent, que des lobbies nous répètent depuis des années comme une évidence, et qui en fait ne le sont pas en réalité et sont des échecs. Donc il est parti un peu à toute vitesse en disant « je ne peux pas être l'élu qui a empêché la construction de la 45 ». Puis s'est rendu compte, en allant un peu trop vite, qu'il y avait plein d'avis, y compris de ses proches, évidemment des écologistes,
oui,
qui lui expliquaient avec des vrais arguments qu'il y avait d'autres solutions moins coûteuses et plus efficaces. Et du coup, je pense qu'il est entre deux chaises actuellement, donc on verra. Après, j'ai envie de faire confiance, moi, au départ. Si je suis déçu, je critiquerai après. Mais je pense que s'il a commandé une étude, c'est qu'il veut une étude objective. Donc, soit cette étude est objective et elle va conclure qu'il y a d'autres solutions que de faire cette A45 et de gaspiller tant d'argent public. Soit elle n'est pas objective et à ce moment-là, nous exprimons pour la contredire et voire pour lancer une étude alternative.
On a vu que Laurent Wauquiez n'aimait pas qu'on le contredise, qu'il n'aimait pas avoir tort. Est-ce que vous n'avez pas peur que, juste pour bien camper sur ses positions, il poursuive la subvention de la 45?
Vous savez, dans ces débats politiques contradictoires, moi j'ai une culture plutôt germanique, où le mode de fonctionnement n'est pas du tout le même qu'en France.
Oui.
Je pense qu'on peut s'opposer sur le fond, sur les idées, et Dieu sait si j'ai peu d'idées communes avec Laurent Wauquiez, c'est peu de le dire, tout en étant sur la forme constructif. L'objectif pour moi, c'est pas de dire il a tout faux, j'ai tout juste. L'objectif, c'est de le convaincre. Et pour le convaincre, il faut apporter des arguments, il faut le faire calmement, avec efficacité et pugnacité, et comme ça, je pense qu'on peut le faire bouger.
C'est pour ça que vous n'aviez pas boycotté le vote du budget, à l'instar du Parti Socialiste ou du Front National? C'est parce que vous pensez encore qu'il peut y avoir un débat avec Laurent Wauquiez?
Alors, pas à court terme, je ne suis pas naïf non plus, je savais que ce budget allait passer et qu'il allait être un vrai gâchis pour un certain nombre d'associations, d'organisations environnementales, pour la culture, etc.
Même si vous n'aviez pas le détail, vous en êtes persuadé?
J'en suis persuadé, et les rumeurs qui courent aujourd'hui me laissent penser que j'avais raison. Cela dit, moi, je travaille pour le long terme. Donc, effectivement, je me suis opposé. Nous sommes opposés au Rassemblement citoyen écologiste et solidaire à ce budget de Laurent Wauquiez, en étant présent, en défendant des arguments, en défendant des amendements. D'abord, pour porter la parole de tous ces gens-là qui vont perdre leur financement et qui vont devoir licencier des dizaines de personnes. Et puis ensuite, pour instiller le débat. Vous savez, la majorité aujourd'hui est unie, c'est normal, elle vient d'être élue, puis il y a les législatives de 2017 qui s'approchent, donc ils sont un peu tous sur le doigt sur la couture du pantalon, mais je pense pas qu'ils soient uniques. Ils ont des idées parfois différentes, des cultures différentes, et donc c'est pas obligatoirement Laurent Wauquiez que je convainc, mais une partie de sa majorité, et c'est mon objectif.
C'est un dossier que vous connaissez bien, pour avoir été un frondeur de Jean-Jacques Kerrane au précédent mandat. Vous pensez qu'effectivement la majorité actuelle peut éclater et que ça soit le MoDem ou l'UDI puisse un jour s'opposer à ce que fait Laurent Wauquiez à la région?
Je suis un peu atypique, mais effectivement, je pense pas que la politique ce soit le noir contre le blanc ou le blanc contre le noir. Je pense que, à force d'arguments, avec sérieux, quand on connaît les dossiers, on arrive à convaincre des gens et construire des majorités sur des idées, sur des moments. Et je suis même sûr que Laurent Wauquiez est capable, lui aussi, d'évoluer dans ce sens-là.
Merci Jean-Charles Collas. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci à vous.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.